IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous accueillons maintenant sur IDFM Radio un comportementaliste câlin, un éducateur. Il est du Val d'Oise, il s'appelle Alexis Tichadel. Bonjour Alexis, merci d'être avec nous et d'arriver tout droit, presque de Husse. Hein.
C'est
pas
ça.
Très loin à côté en tout cas. Hein.
Exactement, bah, bonjour à vous et merci de m'accueillir.
Originaire du Val d'Oise depuis toujours?
Non, pas depuis toujours, mais depuis, on va dire, au moins une dizaine d'années.
Et l'activité principale, donc, c'est s'occuper de nos chiens. Les chats, un peu ou pas, de temps en temps, ou non?
Non, que les chiens.
C'est difficile d'éduquer un... C'est possible d'éduquer un chat ou pas?
Oui, c'est possible. Il y a comportementaliste aussi félin, ça existe. Moi, je m'occupe... J'étais spécialisé dans le chien et je reste dans le milieu canin.
Quel âge tu as?
Moi, j'ai 29 ans.
Et tu exerces cette activité maintenant depuis presque 5 ans?
Ouais, exactement. Ça fait à peu près 5 ans, c'est ça.
D'où vient l'idée, justement? C'est parce que tu as toujours aimé les animaux. Tu en as toujours eu aussi à la maison?
Exactement. Donc moi, j'ai une passion dans la vie. C'est les animaux, tout type d'animaux. Et donc moi, si j'explique un petit peu en même temps mon parcours... Donc j'ai eu un bac plus 3 dans le commerce, j'ai beaucoup travaillé dans le commerce et je me suis jamais senti épanoui. Je trouvais pas de sens à ma vie. Donc du coup, un jour j'ai fait la rencontre d'une éducatrice canine qui a clairement changé ma vie. Je l'ai suivie sur quelques séances et je me suis dit ça y est, c'est ce métier-là que je veux faire, c'est ce qu'il me faut. Donc j'ai tout plaqué, je suis parti me former à Animotopia au Vers-sur-Oise. Donc une formation sur plusieurs mois.
Qu'est-ce que tu as fait durant cette formation?
Du coup, on a fait beaucoup de théories, donc on a vu l'éthologie du chien, quel comportement le chien peut adopter, quel comportement l'humain doit adopter, comment fonctionne un chien, comment combler les besoins du chien. Bon, on a vu vraiment voilà tout ce qui concernait le chien. Et ensuite, on a fait de la pratique sur l'éducation canine, sur comment lui apprendre les ordres de base, comment travailler la sociabilisation avec les autres chiens. Voilà, on a vu un peu tout ça. Et puis, donc ensuite, j'ai passé la CACED, donc qui me permet légalement de pouvoir exercer dans le milieu canin. Et ensuite, j'ai ouvert ma société.
C'est quoi donc, ça exactement, du coup?
Donc, la CACED, c'est une formation qui va donc sur 2 jours à peu près, 2-3 jours. Et à la fin de cette formation, donc c'est un sorte de QCM qui va permettre de pouvoir exercer légalement et de pouvoir créer son entreprise.
Donc, de valider, voilà. On te remet en quelque sorte un diplôme, en tout cas une validation de tout ce que tu as appris durant cette formation, pour pratiquer derrière.
Exactement, et pour pouvoir du coup créer son entreprise derrière et pouvoir être éducateur canin à son compte par exemple.
Alors tu as tout ça, mais après il faut créer une entreprise, c'est autre chose aussi.
Oui, alors du coup...
Il faut budgéter aussi.
Oui. Donc c'est aussi ce qu'on a vu pendant la formation, c'est apprendre à créer une entreprise, apprendre à être bah, du coup indépendant, que ce soit côté administratif, que ce soit côté réseaux sociaux, côté site internet, comment se faire connaître. Donc effectivement c'est tout un processus qui doit se mettre en place, qu'on apprend sur le tas, hein, parce qu'on est tout seul. Mais c'est vrai que...
Mais ça va, t'es jeune.
Oui.
Tu connais tous ces outils, tu les utilises en plus habituellement.
Oui. Donc au final, de toute façon, ça vient tout de suite. Puis avec la passion qui prend le dessus, ça vient.
Donc ça, ça n'a pas été quand même un frein, parce qu'effectivement, il faut se faire connaître, il faut se vendre, parce que tu n'es pas tout seul sur le marché non plus. Donc faut trouver un nom à la société. Ça vient tout de suite aussi le nom de Alex, Passion Alex Canin.
Alors, ça a mis du temps, parce que moi, je voulais vraiment je trouvais que le nom, c'était vachement important. Et moi, le nom, je veux vraiment que ça colle avec l'image que j'ai du chien, donc passion, parce que je veux vraiment que les gens comprennent que c'est pas un métier que je fais pour l'argent, c'est un métier vraiment passion, où je fais pour aider les chiens à être plus épanouis dans leurs pattes, parce que bien souvent je me rends compte avec le temps que on fait pas forcément ce qu'il faut, donc je veux vraiment les accompagner. Alex Canin, pour vraiment que on reste dans le milieu canin et que les gens comprennent que je suis éducateur canin.
Oui, et que tu t'occupes pas de chats,
exactement.
De reptiles,
exactement,
ou
c'est
d'autres
ça.
Animaux.
C'est ça, exactement.
Donc là, ça précise bien. Du coup, c'était il y a 5 ans en arrière, ça,
ouais.
La création, monter la société. Et tu fais ça tout seul ou non, quand même tu fais appel à des organismes pour t'aider. Tu vas à la banque. Je pense que comme tout le monde,
ouais.
c'est la banque qui prête ou pas. Ça prête tout de suite ou ça a du mal?
Alors, il n'y a pas eu besoin d'investissement parce qu'en soi, j'ai pas de local. Je peux travailler à mon domicile et surtout dehors, forêt, champ, parc. Et chez mes clients. Donc en soi, il n'y a pas réellement besoin d'investissement. Le seul investissement qu'il y a eu besoin de mettre, c'était pendant la formation, que j'ai pu me payer tout seul. Après, bah, du coup, oui, il faut de toute façon déposer l'argent à la banque, l'argent qu'on se fait de ses clients. Mais en soi, non, je travaille tout seul. La seule chose que je me fais accompagner, c'est qu'on a, c'est un métier où on a réellement besoin de continuer à se perfectionner, de se remettre en question quotidiennement parce que les études évoluent, parce que des fois il y a certains chiens où on bloque, hein, on va pas se mentir. Et le but c'est vraiment toujours de faire des stages, de se former avec des professionnels pour continuer.
Et parce que les races des chiens sont différentes au niveau du caractère, de la taille, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte.
Exactement. Exactement, c'est ça, ouais.
Parce qu'au début, à la formation, on t'apprend plutôt... Non, on vous apprend quand même à savoir éduquer un petit, un moyen ou un grand chien.
Ouais, il y a pas de différence sur la race de chien et sur le gabarit du chien, mais effectivement après avec l'expérience, oui, chaque chien est différent. Les races sont différentes,
on va dire finalement, parce que chacun a son caractère. Hein. Ouais, il y a des chiens qui sont beaucoup plus timides que d'autres qui sont un peu plus foufou, d'autres plus agressifs, et donc tu vas travailler en fonction effectivement du comportement et du tempérament de l'animal, et voir aussi comment il est dans son milieu naturel et comment le propriétaire de cet animal aussi se comporte avec son chien. Parce que des fois, on fait des petites erreurs, pas forcément hyper méga graves, mais le chien, lui, il retient.
C'est exactement ça. Et je rajouterais même que on s'adapte surtout aux clients qu'on a en face. Parce que forcément, le gros travail, au final, c'est surtout à l'humain que je vais demander de le faire. Il va falloir qu'il modifie beaucoup de choses dans son quotidien. Et c'est vrai qu'on s'adapte en fonction du client qu'on a en face, parce que il y a certaines choses qu'on pourra dire, certaines qu'on ne pourra pas dire. On ajuste en fonction de ce que le client est capable, du temps qu'il a consacré pour son chien. Du relationnel qu'il a avec son chien, parce que ça c'est pareil, on peut pas demander les mêmes choses. Hein. J'ai certains chiens où je me rends compte qu'il y a un relationnel qui est vraiment pas très sain. Donc du coup, nous déjà la base c'est de recréer un relationnel beaucoup plus sain pour pouvoir demander derrière au chien de faire des efforts et d'aller dans le bon sens.
Un chien, on est d'accord, ou même un autre animal, prenons le chat, ça reste de toute façon toute sa vie en quelque sorte un enfant.
Ouais, il y a beaucoup de ressemblances, hein. Je donne beaucoup de similitudes quand je suis en rendez-vous sur l'éducation d'un enfant ou d'un ado.
Bon, un chat, c'est un
ado.
Peu plus autonome, hein, pardon, mais oui. C'est vrai que le chien, il va vivre 15 ans jusqu'à 20 ans, si on a de la chance. Et c'est vrai que c'est un animal qu'il faut prendre finalement comme c'est un membre de la famille, mais c'est un enfant finalement, hein, du début jusqu'à la fin de ses jours.
Hein. C'est ça. Et c'est un enfant qu'il faut apprendre surtout à comprendre et à connaître, parce que ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est qu'on a tendance à pas essayer de comprendre son chien. On a un chien, on veut qu'il fasse telle ou telle chose, mais faut pas oublier que c'est un individu à part entière, qui a son caractère, qui a son passif, qui a le contexte à la maison. Et faut apprendre justement à lire son chien, à comprendre ce que le chien veut nous dire dans telle ou telle situation, pour quelle raison il nous dit ça, et l'accompagner dans l'apprentissage et dans tout ce qu'on veut lui demander. Et ça, c'est quelque chose vraiment de fondamental, parce que on oublie de le prendre en compte, et oui, c'est un chien qui nous dit beaucoup de choses, et on a tendance à pas le prendre en compte. Que ce soit même au niveau de la cohérence qu'on demande à son chien, on demande beaucoup de choses qui sont pas forcément cohérentes au chien. Je vais donner un exemple typique, mais le canapé. Un jour, le chien a le droit, un jour, le lendemain, j'ai pas envie que mon chien aille sur le canapé parce que telle ou telle raison. Mais ça, du coup, ça pose problème parce que le chien, il comprend pas. Donc, le canapé, c'est soit le chien y a le droit tout le temps, soit le chien n'y a jamais le droit, mais ça vaut pour des milliers de situations. Et c'est comme ça qu'on va permettre de créer un relationnel beaucoup plus de confiance. Et
comment
simple.
On fait justement pour expliquer à son animal, à ce chien, qu'il n'a pas le droit de monter sur le canapé?
Ça va dépendre du processus qu'on met en place, mais ça va être par exemple de renforcer les bons comportements, donc dans le sens où si le chien va sur le canapé, je lui demande de descendre. Dès que le chien descend, je le félicite parce que je renforce toujours l'instant T.
Pas forcément en lui donnant une friandise, hein, juste en le remerciant.
Ouais, voilà, moi je travaille pas forcément avec la friandise parce que je trouve qu'il y a aussi ses limites. Donc moi je félicite vraiment à la voix, je crée vraiment du relationnel de confiance avec le chien et je renforce les bonnes choses. Donc dès que le chien descend, moi c'est ce que je veux, donc je renforce l'instant T. Donc ok, un tel c'est très bien. Je lui montre par exemple le panier où il peut se poser ailleurs, hein, peu importe, et je félicite le fait qu'il descende. Et ça c'est vrai que c'est important, ça sert à rien de crier sur son chien, de hurler ou autre. Parce que déjà d'une, ça ne fonctionne pas. Et de deux, si on casse le relationnel, si on recrée du stress chez le chien, le chien va avoir tendance à le refaire derrière. Donc au final, je vais dans une spirale infernale qui
donc
va
on
poser
lui dit
problème.
Tout simplement, gentiment, de descendre, le canapé, de le remercier en quelque sorte, voilà, de lui faire une petite caresse aussi.
Voilà, et après de comprendre si vraiment c'est important pour lui, pourquoi. Est-ce que il a ce qu'il faut à côté? Est-ce que les besoins du chien sont bien comblés? Est-ce que qu'est-ce qu'il recherche à ce moment-là?
Donc c'est important quand même quand on habite dans une maison ou même dans un appartement d'avoir quand même des sortes de coussins au sol ou je sais plus comment on appelle ça, mais oui, c'est des, en tout cas c'est des comment on appelle
des paniers, des choses comme
ça. Oui, des paniers, pardon. Ouais. Oui, voilà, un panier avec quand même des coussins à l'intérieur parce que le chien, il a pas envie forcément de se poser uniquement comme ça sur un panier. En plus, si c'est en osier, si c'est un truc à l'ancienne, c'est pas agréable pour lui. Il faut que ce soit quand même un peu molletonné.
Exactement, ouais. C'est lui proposer un maximum d'endroits confortables pour lui parce qu'effectivement, s'il n'y a pas le droit au canapé, bah faut qu'il ait accès ailleurs.
Et par exemple, ou un plaid au sol, ou je sais pas.
Exactement.
Après, il y a des chiens qui n'ont pas besoin de ça.
Il y en a plein, ils vont se poser par terre. Alors surtout, par exemple, la période où il va commencer à faire meilleur, bah par terre pour se rafraîchir un peu. Mais oui, c'est important qu'ils aient leur endroit. Et ce que je conseille à mes clients, par exemple, c'est qu'ils aient un endroit dans le salon avec l'humain quand on se pose, quand on est tous ensemble, mais aussi un endroit à l'écart si le chien a besoin de se reposer, loin du monde. Je prends l'exemple, quand on fait une soirée à la maison, qu'on a du monde, bah ouais, mais le chien, on peut pas lui demander de se poser, d'être calme, si derrière, le seul endroit où il peut être, c'est avec nous, avec le brouhaha, avec la musique, avec le mouvement. Dans ce cas-là, on a un endroit beaucoup plus calme.
Ah, ça, c'est compliqué, effectivement, quand on reçoit du monde à la maison et quand on a des animaux. Les animaux sont vite un petit peu stressés, ont peur, connaissent pas forcément, il va y avoir du bruit. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, plutôt les isoler ou à la rigueur, il y a peut-être des animaux, des chiens qui sont bien dans cette ambiance-là et qui s'adaptent, ou les mettre de côté dans une autre pièce en attendant que ça se calme et en leur donnant, bien évidemment, tout le confort dans cette pièce.
C'est ça. Après, ça va dépendre du chien. Si le chien de lui-même veut rester à notre côté, à nos côtés, que ça pose pas de problème,
oui, on le voit, on le
vient, voilà, on laisse, il y a pas de souci. Si on, après, il y a le chien qui va avoir tendance à de lui-même être capable de s'isoler lui-même, donc ça c'est très bien. On lui propose la mastication, on lui propose les bonnes activités, notamment au niveau du flairage. Si le chien est capable, il n'y a pas de souci. Si on sent que c'est trop dur, que le chien surréagit, que ça devient trop dur, on peut très bien aussi des fois séparer la maison avec une barrière pour bébé, par exemple. Comme ça, ça permet à ce que le chien puisse nous entendre, nous voir, nous sentir. Mais le chien est à l'écart. Comme ça, ça permet de lui-même, donc encore une fois, avec la mastication, que le chien puisse s'occuper, mais redescendre de lui-même.
Oui, il faut trouver pas mal de méthodes, de techniques, qui se sentent pas non plus abandonnées ou...
Voilà, c'est
ou exclu, donc effectivement il y a ce moyen de mettre une barrière, comme ça il voit quand même ce qui se passe. On est toujours là, on n'est pas parti.
C'est ça, et bien prévenir les gens de ne pas forcément aller l'approcher, le caresser, parce que ce chien là n'est pas forcément à l'aise avec l'humain. Et il peut aimer l'humain mais ne pas être à l'aise dans cet instant T, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce que on peut avoir beaucoup de stress dans ces moments là il faut pas oublier que le chien entend bien mieux que nous, donc tout est décuplé chez lui, même au niveau des odeurs.
C'est important ce que tu dis aussi, dans la rue, c'est à vos risques et périls aussi d'aller caresser un chien.
Exactement.
Et ça, c'est pas très conseillé. Moi, on me le demande, j'ai des chiens à la maison, je les sors régulièrement et on me demande est-ce que je peux caresser mon chien. En règle générale, je dis ils sont gentils, mais en fait, ils sont gentils. Oui, oui, elles sont gentilles, mais on ne sait pas après comment le chien peut réagir par rapport à telle ou telle personne. Ouais. Donc c'est mieux d'interdire.
Ouais.
En règle générale.
Là, tu donnes un bel exemple. Moi, dans tous les cas, quand je suis en extérieur avec nos chiens, je demande toujours à ce que personne n'approche mon chien. Pourquoi ? Parce que on peut penser que mon chien est à l'aise humain ou pas, mais un chien a rarement envie d'être caressé par des inconnus. C'est pas parce que le chien inconnu vient vers moi qu'il vient forcément demander des caresses. Il vient déjà prendre des odeurs et découvrir qui je suis, la personne que je suis, les informations sur moi. Et le risque, c'est que si mon chien n'est pas forcément à l'aise humain et qui se fait caresser une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, et que le chien envoie plein de signaux d'inconfort, plein de signaux comme quoi, bah là en fait je suis pas à l'aise, et que du coup nous en tant qu'humain on le prend pas en compte, bah le chien il apprend à ce qu'il peut pas avoir confiance en l'humain, et petit à petit c'est comme ça que je peux créer un chien réactif humain, parce que tout n'a pas été pris en compte, parce que le chien apprend à ne pas faire confiance à l'humain, et là on peut avoir un chien qui se met, quand je dis réactif, à aboyer, à grogner, à montrer les crocs, parce que en fait c'est pas pris en compte, et tous ces signaux là de communication, s'ils continuent à ne pas être pris en compte, bah là dans l'échelle, ce que j'appelle d'agression, dans l'échelle de communication du chien, ça va s'envenimer, ça va passer sur de la communication beaucoup plus forte, et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir un chien potentiellement même agressif, hein, quand on va dans l'extrême, parce que tout ça n'a pas été pris en compte.
On va continuer à parler avec ce matin votre invité Alexis Tichadel. Je suppose que c'est mieux d'éduquer son chien quand il est petit, arrivé peut-être à un certain âge, on peut encore, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est comme nous, hein, humains, les enfants, on assimile beaucoup plus aussi quand on est très jeune, et puis ça nous fait prendre conscience par la suite qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose, ou en tout cas on est autorisé. Donc on va continuer à parler avec votre invité du jour, Alexis Tichadel, oui c'est bien ça,
c'est ça.
Qui est valdoisien, et le nom de sa société c'est Passion Alex Canin, passionalexcanin.fr, ou aussi sur les réseaux sociaux. Merci. IDFM Radio, merci de nous rejoindre maintenant. On vous fait découvrir un éducateur comportementaliste canin. Depuis 5 ans, il exerce à travers Passion Alex Canin. C'est Alexis Tichadel qui est avec nous aujourd'hui sur IDFM Radio. Merci encore une fois d'être avec nous pour nous parler de cette passion des chiens, mais aussi une grande passion pour les animaux en règle générale, puisque j'ai vu que tu étais parti en Afrique du Sud.
Exactement.
Sur ton compte, ou je crois que c'était plutôt sur ton site hein, internet, où on voit des girafes et tout ça. Donc de temps en temps, tu pars comme ça, faire des voyages et rencontrer d'autres espèces animales.
Oui, donc je suis effectivement, il y a quelques années, je suis parti en Afrique du Sud pour faire du bénévolat, donc pour m'occuper des animaux dans une réserve africaine, pour aider les rangers à s'occuper vraiment des animaux. Donc c'était un rêve. Un rêve que je voulais un jour réaliser, que j'ai fait il y a quelques années. Et donc oui, effectivement, moi, les animaux, c'est... Je vis à travers les animaux. Hein. Mon rôle à jouer, c'est les animaux dans ce monde. Donc,
tu as toujours eu des animaux ou pas ?
Pas toujours. J'ai commencé à avoir mon premier chat, je pense, vers l'âge de 10 ans. Ensuite, j'ai eu ma chienne. Ensuite, j'ai eu d'autres chats, mais on va dire à partir de 10 ans.
Hamster, cochon d'Inde, lapin, tout ça, non ?
À l'heure actuelle, j'ai un cochon d'Inde à la maison.
Ah, voilà.
Ouais, un petit cochon d'Inde que j'ai eu il y a pas longtemps. Mais donc après, ma chienne là, qui nous a quittés très récemment, malheureusement. Donc,
elle est là, elle nous écoute.
Bien
sûr. Elle est quelque part. Elle est partie en décembre dernier, c'est ça.
C'est ça. Et c'est grâce à elle, notamment aussi, que je fais ce métier, parce que c'est elle qui m'a donné envie d'en apprendre plus sur ce milieu-là, sur ces espèces, et parce que je me suis rendu compte qu'on les comprenait mal. Donc, je voulais vraiment me perfectionner là-dedans, et oui, c'est grâce à elle. En partie aussi que je fais ce métier-là.
C'était un berger.
Berger américain.
Ça ressemble au berger australien.
Voilà, mais en miniature.
En plus petit
gabarit,
d'accord.
C'est ça.
Les bergers australiens qui sont au top, hein. C'est le chien préféré, je crois, ici en France, hein.
Oui, et le plus compliqué, en tout cas moi, en tant que professionnel, c'est le chien que j'ai le plus, mais c'est le chien qui est très difficile à gérer.
Comment tu expliques justement ce phénomène, en quelque sorte un peu de mode ? Bon, il y a le Chihuahua qui est toujours aussi deuxième ou troisième, je sais plus, mais il y a des tendance ou pas
Oui.
J'aime pas dire ça, mais je veux dire, voilà, pourquoi ce chien est plus tendance qu'un autre ?
Alors moi, comment je le vois, et je pense que c'est cette raison-là, c'est un chien, effectivement, qui est à la mode, hein, on va pas se mentir, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est un chien qui est très beau, physiquement, sauf que du coup, quand les gens se dirigent sur ces chiens-là, ils ne prennent pas en compte que ce chien-là demande énormément, ce sont des chiens de travail, hein, qui demandent énormément, et se renseigne pas sur tout ce que ça demande en amont. Donc on se dirige sur ces races-là parce que c'est très beau. Donc les éleveurs, bah forcément, vu qu'il y a de la demande, hein, c'est l'offre et la demande, vu qu'il y a de la demande, bah ils font beaucoup de portées sans forcément prendre en compte les parents, parce que la génétique a un réel impact sur le chien, hein, sur son quotidien et sur ce que ça va devenir. Et donc du coup, on a plein de chiens avec plein de problématiques. En général, on laisse les choses s'installer, et dès qu'on commence à se rendre compte qu'on a des difficultés avec son chien, là on fait appel à quelqu'un. Mais malheureusement, des fois, quand c'est ancré, c'est très compliqué de changer la chose. Voire même des fois, ça peut être irréversible. Parce que les premiers mois du chiot sont fondamentaux, hein, pour son équilibre. Et c'est à ce moment-là où on devrait, de base... Et ce que je conseille, c'est appeler et se faire aider par un professionnel à ce moment-là. Parce que tout ce qui est mis en place dès son plus jeune âge a un réel impact sur toute la vie du chien.
Bon, après, un professionnel comme toi ou comme d'autres, on n'est pas obligé de vous avoir non plus toutes les semaines ou tous les mois. On peut avoir une ou deux séances, c'est déjà pas mal dans un premier temps.
Oui.
Après, tu proposes ou les uns les autres vous proposez aussi des tarifs. Bon, il y a des tranches qui sont plus ou moins fortes, mais est-ce que comment dire, est-ce qu'il faudrait quand même un, deux, trois rendez-vous avec toi et l'animal, et après on peut se débrouiller en quelque sorte seul et récupérer tous ces conseils et les appliquer.
Oui, moi ce que je conseille en général, j'estime qu'il y a besoin de 3-4 séances pour avoir les bonnes bases, vraiment pour mettre toutes les bonnes choses en place, parce qu'on voit énormément de choses en séance. Après ces 3-4 rendez-vous-là, normalement, si les gens appliquent bien ce qu'il faut, effectivement ça peut aller très vite dans le bon sens. Et après, des fois, on ajuste en fonction. Si on voit que un an après, on commence à avoir une difficulté, que là, on sait pas comment faire, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu en rendez-vous, même si normalement on voit tout, bah dans ce cas-là, on peut refaire appel à quelqu'un, se refaire aider, se refaire accompagner sur telle ou telle problématique avant que les choses s'installent et avant qu'on renforce les mauvaises choses. Parce qu'on peut très vite renforcer un mauvais comportement. Et dans ce cas-là, quand le comportement est ancré, si je prends l'exemple d'un chien qui a 8 ans et ça fait 8 ans que les comportements sont ancrés, pour remodifier 8 ans de vie d'un chien, c'est très complexe. Par contre, si t'as parlé au début d'un chiot, effectivement, bah si par contre le chiot prend des mauvaises habitudes en étant chiot, on peut très vite et beaucoup plus facilement remodifier la chose pour aider le chien à aller dans la
bonne direction. Donc c'est mieux effectivement d'avoir en tout cas les bonnes bases quand on a un animal qui est jeune, qui est petit,
ouais,
pour lui apprendre
bien sûr
par la suite à grandir et à évoluer sans faire trop de bêtises. De toute façon, ça fera quand même des bêtises, hein, comme nous aussi, hein. On est des enfants, on a été des enfants, puis comme on l'a spécifié, un chien, ça reste un enfant à vie. On n'est pas à l'abri que un chien qui est 10 ans mâchouille, je sais pas, durant notre absence, le bord du canapé.
Bien sûr. Et c'est pour ça que nous, le but en tant que comportementaliste, c'est de comprendre les causes de telle ou telle problématique. Là, tu donnes l'exemple d'un chien qui mordit, qui mord le canapé quand le chien est seul. Bah, nous, le but, c'est de comprendre pourquoi il mordit. Est-ce que les besoins du chien sont bien comblés, que ce soit par exemple le besoin masticatoire? Pour quelles raisons et à quel moment il mordit? Est-ce que c'est forcément que quand le chien est tout seul? Est-ce que c'est quand le chien est frustré? Est-ce que c'est l'excitation? Et le but, ça va être de comprendre la cause pour travailler la cause. Vous voyez, par exemple, là, quand le chien mordit le canapé, quand il est tout seul, ce que je conseille en général, c'est de mettre une petite caméra qui enregistre pour voir à quel moment de la journée, pendant combien de temps. Et dans ces cas-là, si c'est toujours tout seul, bah, on met des protocoles en place pour habituer le chien à se retrouver seul progressivement, ce qui va permettre d'améliorer la problématique. Et je voulais aussi rebondir juste sur ce que tu disais sur les chiots. Je conseille même, et ce que j'incite vraiment nos auditeurs à appeler même et se faire accompagner avant même l'arrivée du chiot, parce que même l'arrivée du chiot, ça se travaille en amont, que ce soit le trajet en voiture par exemple, que ce soit les premières nuits, que ce soit les occupations qu'on va pouvoir proposer au chien, que ce soit les besoins du chien, parce que plus c'est mis à temps tôt, mieux c'est. Et ça évite même des fois le début de bêtises, et c'est pour ça que même les nuits par exemple, on entend tout et son contraire, et ça c'est important pour moi de bien faire les choses dès le début, d'habituer aussi le chien, par exemple, à être tout seul dès le début, de manière beaucoup plus délicate, hein, parce qu'on augmente les difficultés crescendo. Mais ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est fondamental.
Tu arrives à chaque fois, systématiquement, à trouver des solutions pour un jeune ou un moins jeune chien?
Alors, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, oui, mais c'est pas non plus systématique. On n'est pas des magiciens. Il y a, encore une fois, beaucoup de choses qui peuvent être ancrées. On n'est pas dans la vie des gens non plus, donc si on nous dit pas toutes les informations, des fois on peut aussi bloquer. Des fois ça peut arriver sur certains cas très complexes, on peut effectivement se retrouver aussi bloqué, et dans ce cas là c'est pour ça qu'on travaille aussi à plusieurs. Moi je travaille avec d'autres éduques, avec d'autres consoeurs, d'autres confrères, et quand des fois on se retrouve bloqué, on n'a pas honte de faire une séance avec un autre confrère, un autre consoeur, pour avoir une autre vision aussi, pour se faire aider aussi sur des fois des gens qui ont des collègues qui ont aussi peut-être un peu plus d'expérience. Des fois, quand on est deux, ça permet aussi d'avoir un œil différent, et ça permet aussi des fois du coup d'ajuster des choses et de se dire bah ouais, bah tiens, là par exemple j'ai bien fait, parce que bah là j'avais pas vu, peut-être que là bah tiens, quand le chien est réactif congénère, bah peut-être que là il y a une communication sur le chien que j'avais pas forcément vu, et le fait de se faire aider, bah ça permet de se dire bah ouais, bah là j'ai fait l'essai erreur, j'ai pas su gérer, bah la fois d'après, ok, là je me suis ouvert sur, bah tiens, bah là je vais me remettre en question, bah là quand je gère différemment, bah ça aide. Il faut pas avoir honte de d'être plusieurs, et c'est pour ça que c'est un métier, même si on est indépendant et qu'on travaille seul et qu'il y a de la concurrence, ça reste un métier où il faut toujours continuer à se former, à se faire accompagner, à travailler avec des collègues, parce que en travaillant à plusieurs, pour moi, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on va vraiment dans une bonne direction.
Les animaux, en règle générale, les chiens, puisqu'on parle des chiens plus précisément, sont assez réceptifs par rapport à la musique. Par exemple, je m'absente quelques heures et pour le faire patienter avant mon retour, je peux mettre de la musique, brancher la radio.
Oui, effectivement, les chiens peuvent être réceptifs à la musique, notamment des musiques qui sont assez calmes, assez apaisantes. Hein, qui vont, je prends l'exemple là, par exemple, d'un chien qui a du mal à se retrouver tout seul, ou un chien qui peut se mettre à réagir quand le chien est tout seul, parce qu'il entend le moindre bruit, le moindre stimuli, ça le stresse. On peut très bien mettre sur un ordinateur, sur une télé, un son de fond, donc très minime. Hein, les décibels, on fait en fonction pour camoufler vraiment le bruit extérieur, mais le but, c'est que le chien puisse se poser quand même. Hein, on va pas faire hurler. On évite la télé, les publicités, parce que il peut y avoir de tout, donc ça peut stresser le chien, au contraire. Mais si on met une petite musique de fond apaisante, effectivement, sur certains chiens, ça peut permettre de les faire redescendre et de les aider un petit peu. Ça peut. C'est pas forcément sur tous les chiens, mais en tout cas, sur certains, oui, c'est quelque chose que je peux conseiller aussi.
Et leur donner peut-être de la distraction aussi, des jouets?
Alors, des jouets, ça peut être notamment, surtout, on va proposer des jeux d'occupation qui vont permettre d'apaiser le chien, quand par exemple le tapis de fouille. On va cacher des friandises, on va mettre un peu ce qu'on veut, hein, même du blanc d'Inde, des choses comme ça, pour stimuler le chien mentalement. Donc ça va permettre de le faire redescendre, ça va permettre de le détendre, ça va être de proposer une bonne balade en amont, par exemple, du travail, quand on part au travail, parce que hein, la balade, c'est quelque chose que j'insiste énormément au rendez-vous, mais le besoin exploratoire du chien, la balade, c'est quelque chose de fondamental. Tout passe par là, et en général, c'est quand un chien n'a pas assez de balade, voire les mêmes lieux d'environnement, fait que du coup le chien ne découvre pas l'extérieur, ne découvre pas autre chose, et là il y a beaucoup de choses qui s'installent, notamment des problématiques.
Eh ben merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci d'être venu aujourd'hui au micro d'IDFM Radio, Alexis Tichadel, qui est éducateur comportementaliste canin, passionalexcanin.fr pour en savoir davantage, sur les réseaux sociaux aussi. Ça fait, je le reprécise, 5 ans que tu exerces, beaucoup ici sur le Val d'Oise, dans le 78, mais aussi dans l'Oise. Hein.
C'est ça, exactement.
Ici, sur le Val d'Oise, tu viens souvent proche d'Anguin ou proche d'où tu habites, du côté de Husse?
Oui. Alors le Val d'Oise, je fais une grande partie du Val d'Oise. Après l'Oise et les Yvelines, je fais une partie, parce que ça reste aussi très vague. Ça reste quand même très loin. Mais oui, après ici Anguin, je fais. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais.
Merci encore une fois d'avoir échangé sur ta passion. Alexis Tichadel était avec vous aujourd'hui sur IDFM Radio. Très très bonne journée et à bientôt. Bonne continuation.
Eh ben merci à toi de m'avoir reçu, et puis bonne continuité. Et puis,